carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, c'est un voyage que nous vous invitons aujourd'hui, un voyage dans la musique pour orgue de Jean-Louis Florenz. Nous venons d'entendre à l'instant un extrait de l'Aude, Dis-moi ton nom, qui justement introduit l'œuvre par, on va dire, des reproductions, des réacteurs d'un avion. C'est l'invitation au voyage, car Jean-Louis Florenz était un grand voyageur. Nous vous parlons ainsi de voyage, de périple, parce que la musique de Florenz invite à l'expédition. D'abord parce que Florenz lui-même ne pouvait se lancer dans la composition d'une œuvre sans avoir entrepris un nouveau séjour en Afrique ou au Proche-Orient. Et parce que l'œuvre de Florenz est un parcours dans le monde des polyrythmies soudanaises ou kényanes, ou un voyage dans la liturgie éthiopienne. L'exploration que nous vous proposons dans cette émission s'effectuera au moyen de l'orgue, cet instrument que Florenz chérissait plus que tout autre et auquel il revenait comme à une madeleine d'enfance. Citons les quatre œuvres pour orgue de Jean-Louis Florenz, l'Aude, Debout sur le soleil, La Croix du Sud et Prélude de l'Enfant Noir. Avec nous dans ce studio, pour en parler, Marie-Louise Langlais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même organiste et auteur aux éditions Symétrie d'un livre consacré à la musique pour orgue de Jean-Louis Florenz. Et puis, Gilles Cantagrel, à ma droite, que nous ne présentons plus à Canal Académie, mais tout de même, vous êtes correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, musicologue de renom, ancien directeur de France Musique.
Oui, entre autres choses, oui.
Entre autres choses.
Et c'est auteur. Une étape de mon parcours, oui.
Et auteur de nombreux ouvrages de musique, notamment le dernier qui est consacré aux cantates de Jean-Sébastien Bach aux éditions Fayard. Nous parlons de Florenz et de l'orgue. Marie-Louise Langlais, à quel moment est-ce que Florenz découvre l'orgue ? On parlait de madeleine d'enfance. Est-ce qu'il s'agit bien d'une des premières émotions musicales de Florenz ?
Oh oui, tout à fait. Il était à l'époque dans un collège, religieux, et il a eu un choc en découvrant l'orgue qu'il a trouvé immense, alors qu'il ne l'était pas au départ. Et cette découverte, ce choc d'enfance, il l'a absolument gardé toute sa vie. C'est intéressant parce que lui-même, si vous voulez, vous cite le passage où il en parle, oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Mes souvenirs d'enfance plutôt solitaires sont remplis de rêves scientifiques, de grands espaces et de voyages lointains. Ces rêves étaient entretenus par plusieurs chocs émotionnels causés par certains films, documentaires sur l'Afrique que nous montraient des pères blancs de passage. Dieu parmi nous d'Olivier Messiaen, entendu pour la première fois en 1956. » Il avait donc 9 ans.
C'est extraordinaire.
Comme musique d'illustration sonore de ce magnifique reportage sur les pères blancs en Papouasie, ou bien le chef-d'œuvre de Walt Disney, Désert vivant. Et il ajoute, la première fois que je suis entrée dans la grande chapelle du collège des pères maristes à Saint-Chamond, j'ai été tout de suite frappée par l'or qui s'y trouvait, il me paraissait énorme. Et c'est dans cette chapelle que j'ai entendu pour la première fois à mon entrée en sixième, donc en octobre 59, il était très précis, c'était le scientifique, lors d'un concert, l'apparition de l'église éternelle de Messiaen, et cela m'a causé un vrai choc, une sensation physique indescriptible. Je pense que c'est ces souvenirs mêlés de sa jeunesse, de ces magnifiques conférences qu'il a entendues et qui ont excité son imagination, pour lui le rêve était très important, ont été tout de suite couplés avec de l'audition de musique d'orgue.
Alors, immédiatement, dès l'âge de 9 ans, Jean-Louis Florenz s'est associé à Olivier Messiaen. Il faut le faire, non, Gilles Cantagrel ?
Oui, parce que ça n'est pas toujours très évident, et surtout à cette époque-là, c'était quand même encore très neuf comme langage musical, et ça veut dire une chose, c'est que Jean-Louis était vraiment, on peut dire, tout oreille. Donc il faut avoir une sensibilité à fleur de peau pour tout d'un coup être à ce point perméable à Messiaen, ce qui est ouvert à tout le monde, hein, ça n'est pas... intrinsèquement quelque chose d'inaccessible, mais à 9 ans, avoir cette réaction-là, c'est tout de même assez exceptionnel. Et il était, il a toujours manifesté une sensibilité, non seulement à l'oreille, mais du regard, une sensibilité à l'égard des gens, c'est un hypersensible. Et ça se manifeste très tôt. Et on voit déjà très tôt comment il y a des références avec l'Orient, enfin, c'est un être complètement hors du commun dès son enfance.
Et cohérent, on voit la cohérence de son parcours.
Tout son parcours, qui est complètement atypique. Je ne dirais pas marginal, parce que c'est une mauvaise connotation, mais atypique, hors norme en tout cas. Tout son parcours, qui nous paraît fait de bric et de broc, est au fond le fruit d'une... Il y a une profonde cohérence.
Oui, justement, dans l'entretien qu'il m'avait accordé, il insiste sur ce parcours et il explique comment il est devenu compositeur. Il écrit donc qu'il écoutait très souvent les œuvres d'orgue, les concerts d'orgue diffusés à la radio le jeudi, qui était le jour de congé pour les écoliers à cette époque. Il dit qu'il y a entendu beaucoup d'œuvres du XXe siècle, Tournemire, Dupré, Duruflet, Messiaen, Alain, Grunewald, Langlet, Littès. Et il ajoute « Ces pièces m'ont marqué profondément. J'étais bouleversé, poursuivi par ces harmonies. Mais je ne pouvais pas les reproduire parce que je n'avais pas le magnétophone qui m'aurait permis d'enregistrer ces concerts. Du coup, pour ne pas les perdre, comme j'avais deux orgues à disposition dans le collège, j'ai tenté de les reproduire et de les analyser sur ces orgues. Je me suis donc mise à improviser. Et quand je retrouvais de façon empirique ces harmonies, je le mettais sur papier pour m'en souvenir. C'est comme ça que j'ai bifurqué vers la composition insensiblement vers l'âge de 17 ans. Et je pense que si je n'avais pas joué d'orgue, je ne serais venue ni à la composition, ni même à la musique. C'est vous dire si cet instrument compte pour moi. » Et il conclut « Après avoir retrouvé ces harmonies qui m'avaient tant frappé, je pensais « C'est tellement beau, tellement parfait. Qu'est-ce que je peux faire de mieux après ?»
Et il a mis du temps, non, pour commencer à composer.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas appris. On peut dire qu'il est quasiment un autodidacte. Normalement, un compositeur apprend un instrument, apprend la théorie dans les classes de conservatoire, d'écriture, d'harmonie, de fugue, de contrepoint, d'orchestration. Il n'a pas fait le conservatoire. Il était auditeur 2 années chez Olivier Messiaen.
Auditeur libre.
Auditeur libre, simplement.
Au conservatoire
national
supérieur.
Il n'a pas passé de concours, rien du tout. Il n'a aucun enseignement officiel.
Aucun diplôme, il ne cherchait pas du tout.
Ça ne l'intéressait pas, mais il faut dire que c'est une force, il y a une espèce d'instinct musical absolument prodigieux, parce que tout de même, quand on entend Messiaen reproduire un accord de Messiaen, quand on est simplement autodidacte à l'oreille et qu'on sait à peine jouer avec ses 10 doigts, éventuellement ses 2 pieds, ça veut dire qu'il est déjà un génie de l'oreille tout à fait extraordinaire.
Alors, il passe donc 2 années dans la classe d'Olivier Messiaen en tant qu'auditeur libre. Il est frappé à l'époque par la façon dont la création musicale est sclérosée à l'époque, dans certains débats de genre
déjà
et de forme.
Déjà à l'époque, mais ça va durer toute sa trop courte vie.
Donc, de 1970 à 1972, il dit « À l'époque, la musique contemporaine était au pire de ce qu'elle pouvait être. Ce qui comptait avant tout, c'était de trouver celui qui inventerait le dernier bidule qui allait faire évoluer l'histoire, on envoyait voler dès qu'il y avait un mouvement conjoint quelque part. » Il parle d'univers malsain pour lui. C'est Olivier Messiaen qui, d'ailleurs, c'est ce que Jean-Louis Florenz dit, ce que vous rapportez dans votre livre, Marie-Louise Langlet, Olivier Messiaen lui dit « Cher ami, partez, allez en Afrique, voyagez. » C'est un commandement auquel il répond au doigt et à l'œil.
C'est un fantastique conseil. Il ne pouvait pas faire mieux, en fait. Il avait tout de suite Messiaen, qui était très intelligent pour ses élèves, de toute façon, il voyait très bien leur direction, s'est bien rendu compte que cet oiseau-là, si je me permets de m'exprimer ainsi, avait besoin de s'envoler le plus loin possible. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que les deux ont parlé des oiseaux, puisque les oiseaux, c'est une grande spécialité de Messiaen, les chants d'oiseaux, et ils n'étaient pas du tout d'accord. Mais si on disait à Florence, les oiseaux, les chants d'oiseaux d'Afrique n'ont aucun intérêt. Les mélodies ne sont pas belles. Et en face, Florence pensait que lui trouvait ça très beau, mais surtout que, et ça, elle le verra plus tard, que ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'oiseau tout seul, mais c'était l'oiseau dans son contexte, avec les autres oiseaux, les polyphonies d'oiseaux, dans leur cadre, dans la forêt. C'est pas du tout la même démarche, en fait. C'est pas une démarche mélodique, c'est une démarche, comment dire, rythmique, probablement. Et en plus, Florence avait ce don. Il dessinait extrêmement bien. Et on a beaucoup de dessins d'oiseaux qu'il a fait et qui existent.
Donc Florence devient très vite un accro du voyage. C'est un besoin, une nécessité pour lui, qui nourrit ses musiques de façon fondamentale. Nous allons réécouter un extrait de l'Aude. Il s'agit cette fois de Chant des fleurs. Et on entend au tout début de ce mouvement les pales de réacteurs. C'est bien ça?
C'est-à-dire, c'est un peu spécial. On a entendu dans le premier extrait le bruit, disons, j'appelle ça un bruit, mais enfin, que peut faire au départ un Boeing 727. Et d'ailleurs, Florence en parlait. Il disait que quand il voyageait, et il a beaucoup voyagé en Afrique, il a toujours demandé à être assis au fond de l'avion, près des portes, contre le réacteur. En ajoutant, les trois réacteurs sont placés deux contre le fuselage, un au-dessus, traversant en partie la dérive. Et lorsque les moteurs d'un Boeing 727 se mettent à tourner, on entend une harmonie de plus en plus chargée à forte résonance de cloches. Cette résonance est tuilée progressivement avec un complexe harmonique très riche. Ça, c'est au moment du décollage. Et cet aspect physique des réacteurs, pour lui, évoque des pétales de fleurs. C'est pour ça qu'il a appelé sa pièce « Chant des fleurs ». Pour lui, ces pétales sont les aubes des compresseurs des réacteurs. Donc, pour lui, dans le « Chant des fleurs », et l'enregistration est extrêmement spéciale et unique, on ne peut pas jouer cette pièce sans l'enregistration qu'il demande. L'enregistration, dit-il, a une importance telle qu'il est impossible de jouer la pièce sans la dénaturer. Et l'effet est absolument extraordinaire. C'est peut-être la pièce la plus, entre guillemets, révolutionnaire qu'il ait composée, ce Chant des fleurs.
Nous l'écoutons tout de suite. Nous venons d'écouter un extrait des Laudes de Jean-Louis Florence. Il s'agit du quatrième mouvement, le Chant des fleurs, avec Michel Boursier à l'orgue. De quel orgue s'agit-il, Marie-Louise Langlais?
Alors, c'est l'orgue de Birroust de Plaisance du Gers, un orgue qui a été très important pour la conception de l'œuvre et pour Florence lui-même, parce qu'au fond...
Il était très difficile, non, en ce qui concerne les orgues.
C'était un homme de l'exigence absolue en toute chose, à l'égard des êtres, à l'égard de tout.
il était très très exigeant, mais bon, il a eu cette commande d'écrire les laudes pour cet orgue. C'est une commande de l'association de l'orgue, donc il s'y est mis tout entier comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a voulu voir comment l'orgue n'était pas encore construit, comment il fallait l'envisager. Et d'un orgue plutôt baroque au départ, il a fait autre chose. Il a influencé le facteur d'orgue en fait. Et ça, c'est formidable. Je crois que Gilles Cantagrel ne me démentira pas, c'est la démarche de Bach et Silbermann, tout à fait,
oui,
c'est la même démarche.
Et de Wendorf, des facteurs qu'il a connus, dit voilà ce que je veux. Et il détermine l'esthétique même. Daniel Biroux était parti, bon, il venait de chez Kern, hein, donc le grand spécialiste de l'orgue baroque allemand, et il a infléchi la composition, Biroux a suivi exactement ses conseils, enfin ils ont trouvé un accord, bien entendu, notamment dans l'harmonie. C'est une harmonie, ce qu'on appelle l'harmonie, c'est la couleur sonore de chaque registre, de chaque teinte, de la palette sonore, et qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui admirablement réussi, qui était exactement ce que voulait Florence.
Tout à fait. Et alors Biroux te dit, il est clair que Jean-Louis m'a influencé et fait modifier certaines des options retenues au départ. Ainsi, il m'a convaincu, c'était une de ses premières exigences, de construire des claviers de 61 notes. Ça, ce sont les claviers de Messiaen, c'est les claviers de tous les néoclassiques dès les années 30.
C'est-à-dire le grand clavier de 5 octaves, plutôt que de 4,5 ou 4. Oui.
Ce qui fait quand même sauter en l'air les baroques, parce que ce n'est pas du tout leur exigence. En tant que compositeur, m'expliquait-il, il en avait impérieusement besoin et trouvait inconcevable de réaliser un orgue contemporain n'ayant pas cet ambitus exigé par l'essentiel des œuvres du XXe siècle. Il a également voulu la flûte harmonique de 8 au grand orgue à partir du 3e fa. Ça, c'est l'héritage de Cavaillé-Coll, 19e siècle. Une septième au positif, en même temps qu'une synthèse flûtée au récit et différentes pressions. Ce sont des exigences qui ne sont pas ni de l'orgue classique ni de l'orgue romantique, c'est l'exigence d'un orgue neuf. Et il ne pouvait que s'entendre magnifiquement avec Jean Guillou, naturellement.
Exactement. Ce sont des gens, Guillou et Florence, qui ont pensé que l'orgue, qui est un instrument séculaire, et même qui a 2000 ans d'âge peut-être, devait évoluer, et que c'était peut-être le plus susceptible d'évolution. Le violon, maintenant, on n'y touche plus. Bon, il a atteint son maximum il y a 3 siècles avec Stradivarius. Tandis que l'orgue est encore très riche de possibilités, et il a demandé des possibilités tout à fait nouvelles, notamment dans les rangs harmoniques, des septièmes, des harmoniques élevées, par exemple.
Tout à fait. Et il avait entendu Guillou à Saint-Eustache et il connaissait le livre de Guillou sur l'orgue mutation, son goût
musique
pour les...
Musique et avenir,
tout
oui,
à
oui.
fait. Et il était très fasciné par l'avenir de l'orgue et non pas par le passé. Mais j'ai souhaité qu'on entende les laudes sur cet orgue, d'abord parce que c'est l'orgue pour lequel ça a été écrit, et parce que du côté baroque, justement, il y a ce vent vivant. Il y a ces couleurs inouïes qu'on voit très bien dans la pièce qui s'appelle Harpe de Marie et qui sont probablement encore plus extraordinaires que sur les deux grands instruments qu'après il a choisi définitivement, c'est-à-dire Saint-Eustache et Notre-Dame.
Oui, le vent vivant, ça paraît une expression un peu bizarre peut-être pour certains auditeurs.
Dites-nous.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une pression scientifiquement parfaite. Enfin, on sent qu'il y a des poumons et que c'est comme un être humain qui chante et surtout qui respire en fonction de ce qu'on joue. Bon, que ce soit en matière de pression, d'alimentation. Tout d'un coup, on sent l'orgue vivre et respirer.
Alors, écoutons ce mouvement Harpe de Marie, toujours un extrait des Laudes de Jean-Louis Florenz.
Thank you.
Marie-Louise Langlais, en préparant cette émission et en choisissant ce mouvement Harpe de Marie, ici interprété toujours par Michel Boursier, vous me parliez de couleurs, de danse et de bizarrerie. Alors vous avez la partition sous les yeux, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement de quoi il s'agit ? En quoi est-ce que c'est bizarre ?
D'abord, je voudrais dire que ce qui est exceptionnel aussi pour Florence, c'est que ses interprètes sont absolument fantastiques.
Michel Boursier est totalement
Michel
rentré
Boursier
dans cette œuvre.
Est admirable, tout comme l'a été après Olivier Latry, et même Béatrice Pierto, qui joue l'enfant noir donc, avec lequel elle a gagné le prix Florence. Et je signale, elle avait 19 ans à ce moment-là, et Boursier en avait 20. Donc Florence s'est adressée à des jeunes dont il n'était pas complètement sûr qu'il pourrait jouer son œuvre, qui est affreusement difficile. Et à chaque fois, j'allais dire vulgairement, il a fait mouche. Il est tombé sur des interprètes exceptionnels. Et Boursier est probablement celui qui connaît le mieux l'œuvre de Florence, qui en parle le mieux. Et c'est tout à fait admirable. Quand il fait une conférence, il faut y courir.
Donc des œuvres affreusement difficiles et incroyablement bizarres.
Très difficiles, parce que ce n'est pas du tout des techniques qu'on avait habituellement. Oui. Pour nous, organistes, Messiaen paraissait déjà extrêmement difficile techniquement. On se disait, quand on a joué les grandes pièces de Messiaen, on est vraiment très fort. Mais là, c'est encore une autre technique tout à fait différente. Et c'est ça qui est extraordinaire, qu'à la fin du XXe siècle, on ait pu encore inventer des nouvelles techniques. Et ces techniques de superposition sont tout à fait remarquables. Et ces mélanges de rythmes qui sont un peu terrifiantes pour celui qui lit la musique, des 6 contre 5, des 7 contre 6 contre 5, au finish, quand on les entend, paraissent extraordinairement naturelles. Et ces œuvres paraissent à la limite pas vraiment difficiles, et c'est terrible. C'est terrible à monter rythmiquement, toujours.
Alors, je crois avoir lu d'ailleurs de votre livre que Jean-Louis Florence commençait par noter et très très lentement les rythmes et les accélérer au fur et à mesure.
Oui, ça lui arrivait. En fait, ce qu'il faut...
Dans son procédé de composition.
Pour lui, au fond, ces grandes œuvres, c'est presque comme des fugues de Bach. C'est-à-dire, c'est d'une extraordinairement... C'est très, très dense. Il n'y a aucune paresse intellectuelle. Et pourtant, c'est jamais trop copieux. C'est tout à fait extraordinaire. Il a un sens de l'architecture qui est absolument admirable. Et puis, il est un compositeur occidental... nourri de musique occidentale, en particulier de la musique néoclassique du XXe siècle, et on le lui a reproché, qui a su tout simplement intégrer un autre continent, un autre monde, l'Afrique, avec ses modes, avec ses mélodies. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter des reportages sur l'Éthiopie, quand on entend les chants éthiopiens ou les flûtes éthiopiennes, on est déjà dans Florence. Donc, il a su incorporer ces deux mondes d'une façon, avec une unité fantastique. C'est tout à fait extraordinaire. Pour moi, c'est un des grands, grands compositeurs d'orgue dans le monde.
Gilles Cantagrel.
Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est qu'il faut absolument écouter ses œuvres et s'en nourrir. C'est exact, il n'y a pas un seul instant où la tension se relâche et la concentration du compositeur, exactement comme dans une fugue de Bach, il n'y a aucun remplissage, il n'y a aucun pont, aucune transition, rien du tout. C'est d'une densité parfaite. Moi, ce qui me frappe toujours énormément dans cette musique dont je raffole depuis que je l'ai découverte il y a 30 ans, c'est que c'est une musique extraordinairement complexe et savante qui peut s'adresser vraiment à l'homme de la rue, à quiconque ouvre ses oreilles et son cœur, simplement. Il y a une espèce de naturel apparent. Marie-Louise Langlais parlait à l'instant des 5 contre 6, 6 contre 7, des choses vraiment, enfin des superpositions rythmiques très très difficiles. Et ça ne donne pas du tout une impression d'incohérence. Au contraire, ça donne une impression de liberté, de naturel. Il y a un naturel constant dans la perception qu'on peut avoir de ces œuvres. Alors, on parlait tout à l'heure des oiseaux qu'il avait en commun avec Messiaen, même si l'usage qu'il en fait est très différent. Il y avait aussi en commun entre eux un goût de la couleur, là encore d'une façon très différente, et puis la foi, naturellement. Et je me rappelle avoir entendu à Toulouse les orgues, il y a quelques années, dans la basilique Saint-Sernin, une autre œuvre, Debout sur le soleil, qui est un énorme morceau qui dure quelque chose comme 25 minutes, au milieu, en deuxième partie, alors qu'en première et troisième partie, il y avait les petits concerts spirituels de Schütz. Et ça met... Alors j'étais assis à côté de Jean-Louis qui était très inquiet de ce que ça pourrait produire, ce choc entre vraiment deux expressions musicales si différentes. Et les gens étaient bouleversés, les auditeurs dont j'étais étaient bouleversés, choqués même, dans le sens le plus fort du terme, par cette confrontation, parce que quand on a atteint cette intensité-là, on retrouve toujours la spiritualité quelque part, très haut, au-dessus de nos têtes, et ça fonctionnait très bien.
Vous parliez du différent entre Olivier Messiaen et Jean-Louis Florenz, normalement, notamment à propos du rythme. Je crois qu'ils avaient une conception du rythme très différente.
Oui, puis alors en plus, ça mériterait toute une série d'émissions, la différence qu'il y a entre la rythmique et la métrique, entre le rythme et le maître, une grande confusion dans la musique occidentale, dont il faut se défaire dès qu'on aborde les musiques du Moyen-Orient et surtout les musiques d'Afrique.
Olivier Messiaen, ça
nous entraîne un peu trop loin.
Qui est un adepte de la métrique.
Oui, mais exactement. Et donc là encore, il y avait un point de divergence avec Messiaen, et Messiaen n'a pas cessé d'exprimer et de manifester son admiration à l'égard de Jean-Louis Florenz. Il lui a témoigné presque comme un collègue pour lequel Messiaen lui-même avait la plus profonde admiration. Et c'est très touchant.
Oui, c'est amusant parce qu'au fond, Florenz, il aimait les choses incantatoires. Il aimait les rythmes africains, les choses régulières qui se répètent. Tout ce que n'aimait pas Messiaen. Messiaen aimait les rythmes inégaux, les valeurs ajoutées. Au fond, Messiaen regardait vers l'extrême-orient, si on veut schématiser.
Exactement, oui.
Et Florenz regarde vers le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est une très grosse différence. Mais d'ailleurs, Messiaen admirait beaucoup Florenz, comme vous l'avez dit. Hein. Mm-hmm. Alors, justement, si on parle de Debout sur le soleil, oui. Si vous voulez bien, et pour ne pas trahir sa pensée, parce que c'est vraiment la chose que je n'aimerais pas, j'aurais honte, je lis juste un tout petit paragraphe que Florenz a mis lui-même au début de Debout sur le soleil. Voilà ce qu'il a dit. « J'ai été fortement impressionné par la résonance des voûtes de Notre-Dame de Paris. » Avec la voix de Jacques Leclerc. De même, le grand orgue Cavaillé-Coll est le contrepoint idéal de sa parole qui ressemble à du feu. Dans cet édifice, en présence de Jacques, tout devient grandiose, cosmique et en même temps très humble. Cette adéquation absolue, qui parfois relève de la féerie si le soleil s'en mêle, m'a poussé à écrire une paraphrase de l'une de ses plus belles méditations, donc de Jacques Leclerc, le Miserere, chapitre terminal de son livre « Debout sur le soleil ». Avec cette phrase, et l'ange s'est dressé debout sur le soleil dans l'Apocalypse. J'ai essayé de dire en musique cette vibration de Dieu qu'est Jacques lorsqu'il parle dans la cathédrale Notre-Dame, en me pénétrant de l'architecture de l'édifice gothique, des jeux de couleurs et de rythmes des rosaces, des timbres du grand orgue, de la voix de Jacques et de ses harmoniques, de ce qu'il dit, et surtout du visage qu'il dit à la manière d'un madroche, dont le texte commence souvent par ces mots « pour décrire ta beauté » ou bien « décrire ta beauté est impossible ». Ensuite, il poursuit en disant que l'ouvrage est d'un seul tenant et il parle de ces fameuses 41 invocations « Seigneur, aie pitié de nous, ô Christ » qu'il traduit à l'orgue d'une façon absolument bouleversante.
Nous venons d'entendre un extrait de « Debout sur le soleil », composition de Jean-Louis Florenz, ici interprété par Olivier Latry, sur l'orgue de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'une œuvre dont la composition a été accélérée, très curieusement, par le déclenchement de la guerre du Golfe.
C'était un moment difficile pour lui à tous égards, et en plus se déclenche cette guerre. Et pour lui, ça a été un cataclysme. C'était quelque part l'Occident contre l'Orient. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Mmh. Et ça a été un drame personnel, disons, ce déclenchement de la guerre du Golfe.
Donc c'était une œuvre sur laquelle, je crois, il travaillait depuis un petit temps. Et...
Comme toujours, ses œuvres, en fait, il n'y a pas une date de création.
Ouais, ouais.
C'est des morceaux accumulés pendant 20 ans et qui met tout ensemble avec une masse de symboles, de symboliques, bien sûr.
Alors nous parlons de la guerre du Golfe comme déclencheur, on va dire, qui a permis au travail d'accouchement d'être accéléré.
Oui, oui.
Mais plus globalement, quand même, Jean-Louis Florenz s'était fasciné par la liturgie éthiopienne qu'il allait écouter, je crois, à Jérusalem, qu'il avait enregistrée. Et il était fasciné par ces mouvements incantatoires. On entend dans ce mouvement que nous venons d'écouter les mouvements de répétition qui sont absolument anti-messiens, comme vous le disiez vous-même en écoutant cet extrait. Il passait des heures ainsi à écouter la liturgie éthiopienne, à écouter, je crois que ce sont des mouvements rythmiques qui se superposent les uns derrière les autres.
En fait, ce qui l'a, je crois, fasciné dans la liturgie éthiopienne, c'est que cette liturgie est la liturgie chrétienne la plus ancienne au monde.
C'est vrai, ouais.
Elle est des premiers siècles après Jésus-Christ et elle n'a pas bougé. Donc, c'est une occasion extraordinaire de voir, de s'approprier la première liturgie existante. Et le côté scientifique de Florenz l'a poussé aussi. Et puis, il faut dire que l'Éthiopie, c'est aussi la Rift Valley, c'est-à-dire le berceau de l'humanité. Donc, il y a tout un symbole très, très fort pour lui.
Oui, parce que quand on parle de sa fascination pour l'Afrique, c'est surtout l'Afrique de l'Est.
C'est surtout l'Afrique
le
de l'Est.
Kenya,
c'est
l'Éthiopie,
aussi,
le Soudan.
Oui, l'Égypte, enfin, le Nil et tout ce berceau de l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a toute l'Afrique donc anglophone, il adorait le Kenya, il a voulu que ses cendres y soient dispersées. C'était vraiment une grande passion. Donc la liturgie éthiopienne l'a fasciné, mais il y avait un problème. En plus, elle était très mariale et lui avait un vrai culte marial, probablement venu de ses années au collège mariste. Et la chose compliquée pour lui était que l'Éthiopie, à cette époque, était communiste, mais communiste durement.
Terrible.
Et le dictateur communiste voulait absolument éradiquer le christianisme de l'Éthiopie. Donc c'était un espèce de déchirement pour lui, cette liturgie qu'il aurait eu envie de suivre sur le pays même, il ne le pouvait pas. Et un endroit où cette liturgie se pratiquait, c'était à Jérusalem, curieusement. Et c'est là qu'il est allé plusieurs fois suivre cette église et vraiment s'en imprégner de ses rites et de ses chants.
Oui, c'était un homme, j'allais dire un garçon, parce qu'on était... Mon copain, presque, d'une très grande culture qui confinait à l'érudition et sa passion était active comme en toute chose. Il connaissait l'arabe littéraire et il avait appris les langues sémitiques qu'on parlait dans certaines
contrées. C'est moi, il a appris le guez pour pouvoir suivre la liturgie.
Parce qu'on ne peut pénétrer une culture que si on en possède la langue, c'est-à-dire le véhicule de la pensée, bien entendu. Et les liturgies coptes lui étaient familières.
Alors, il y a une évidence avec laquelle on est parti dès le début de cette émission, mais qui n'est peut-être pas évidente du tout. Pourquoi est-ce que Jean-Louis Florenz l'a composé essentiellement pour orchestre, pour orgue, et aussi pour violoncelle et pour voix ? Il n'a pas été attiré par d'autres formes de
formation ?
Non,
ça, je lui ai demandé. Je me souviens lui avoir demandé, mais vous n'avez pas composé de quatuor,
oui.
Ou de pièces pour piano ?
De musique de chambre, horreur. Il n'est pas du tout attiré par ça.
Horreur,
pas
ça,
du
je veux
tout.
Dire, c'est,
pas, c'était... Pas de mélodie,
un cri d'horreur,
d'opéra, hein. Que sais-je.
Parce que
le
c'était
chœur,
trop,
oui.
Trop occidental, sans doute, pour lui.
Oui, je pense.
Je pense. Et curieusement, l'orgue ne l'était pas, alors que quand même, l'orgue est très occidental aussi.
Enfin, il est devenu, dans ce qu'il est. À l'origine, bon, on ne sait pas trop d'où il vient,
oui,
mais
vous
enfin,
avez raison.
Peut-être de Mésopotamie. Alors, je pense que ce n'est pas un hasard.
Et alors, cet homme nourri de musique grégorienne d'abord. Il a été très.
Et ça s'entend.
Il le sait très bien, il le savait très bien, le grégorien, qui adorait la musique de Tournemire. Et de plus en plus, à la fin de sa vie, il me téléphonait en me disant : j'ai pas toutes les partitions de Tournemire. Est-ce que vous avez celle-là ? Est-ce que vous avez les enregistrements de Tournemire, de Duruflet ou même de l'anglais, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur le grégorien de façon très importante, eh bien, cet orgue, il lui a adapté l'Afrique, toute l'Afrique. Et jusqu'au bout, pas la même Afrique, par exemple, la pièce suivante, qui est la Croix du Sud, c'est le Sahel, c'est le désert. Et la dernière pièce, c'est encore une autre Afrique, l'enfant noir. Mais cette obsession africaine, il l'a appliquée magnifiquement à l'orgue, et c'est quand même une surprise, parce que inattendu tout de même, très inattendu.
Dites-nous ce qu'on entend dans la Croix du Sud, et nous allons l'écouter juste après.
Alors oui, dans la Croix du Sud, c'est aussi là, ça vient d'une commande. Au fait, il composait toujours sur commande, à l'occasion de l'inauguration de l'orgue de la basilique Saint-Rémy à Reims. Là aussi, d'ailleurs, un orgue qui n'était pas du tout symphonique. Donc, il a dû se plier. Il ne s'est pas tellement plié à l'orgue cette fois-ci, je veux dire. Ce n'est pas du tout comme avec Daniel Biroust. Il a tout de suite dit, écoutez, cette œuvre, je l'ai conçue pour Notre-Dame. Voilà. Comme ça, c'était clair.
Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. C'est un bel instrument, mais qui a peu de rapport avec Notre-Dame, il faut dire.
Qui est l'orgue idéal pour Florence, quand même.
Ah, c'est un très grand orgue pour Florence. Avec un combinateur, parce qu'il faut tellement changer de couleur tout le temps, que je crois que Béatrice Pierto disait qu'il lui fallait 80 combinaisons, c'est-à-dire 80 changements de couleur dans une œuvre qui dure 10 minutes.
Et combien d'assistants ?
Ah ben, si on a un bon combinateur électronique, il n'y a pas besoin.
Ça va, mais quand même, c'est très très difficile, voilà. Donc
la Croix du Sud.
La Croix du Sud, c'est beaucoup plus donc vers le Hogar. D'ailleurs, il le dit dans son introduction. Il cite un poème touareg et qui commence comme ça : celui que j'attendais est loin d'ici, aussi loin que le ciel de la terre, aussi loin que la Croix du Sud de la Guelta. La Guelta, c'est un point d'eau. Donc, et son introduction, c'est le massif du Hogar au sud du Sahara, un ensemble chaotique de volcans fossiles dont ne subsistent aujourd'hui que des cheminées mises à nu par l'érosion. Ces pitons basaltiques, dressés vers le ciel comme des doigts de géants, font penser à d'immenses buffets d'orgues. C'est le pays des Touaregs. Vous voyez, toujours, l'orgue est quand même... Il a beau être dans le désert, loin de tout, et l'orgue est quand même toujours là. Même, j'allais dire, physiquement presque. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on a entendu dans les invocations de Debout sur le soleil. Nous avons là, pour le début, parce qu'on n'entend pas toute l'œuvre, une très longue séquence monodique. Et puis, peu à peu, arrive de plus en plus de polyphonie, exactement comme dans une grande fugue ou comme dans un motet. Peu à peu, le désert, la nudité du désert, qui est donc transcrite par ce thème à cette mélodie, se peuple de tas de choses mouvantes, et c'est le Sahara, d'après Florence, dans la Croix du Sud.
Thank you.
L'extrait que nous venons d'entendre était tiré de La Croix du Sud, œuvre de Jean-Louis Florence, créée en 2000. Il s'agit d'un enregistrement avec Olivier Latrie à l'orgue de Notre-Dame de Paris. À un moment, Gilles Cantagrel, vous ne trouviez pas qu'on aurait dit un petit peu quelques réminiscences de Bach ?
C'est plus que des réminiscences, parce que c'est sur le plan de la structure de l'écriture que ça se passe. En effet, je suis parfaitement d'accord avec ce jugement. C'est-à-dire qu'il y a un motif qui va vivre sa vie en proliférant et puis qui se combine à lui-même petit à petit en une deuxième voix, puis une troisième, quatrième, cinquième. Et donc, il y a une densification, si je peux dire, du réseau contrapuntique, de la polyphonie, mais uniquement à partir d'un même motif qui se combine à lui-même. Et donc, c'est ce système d'amplification qui est le propre de Bach. Autrefois, on avait comparé, c'est le père Florent qui comparait ça à un fleuve qui grossit. On ne voit pas l'affluent et pourtant il grossit parce que comme s'il se multipliait lui-même.
Oui, et puis la couleur, vous remarquerez, la couleur change. On part de très sombre pour la monodie et puis peu à peu, les motifs sont de plus en plus clairs quand ils arrivent vers le soprane. C'est très intéressant.
Il y a une sorte de crescendo qui est dû à l'écriture elle-même et en plus à l'enregistration. Il était extrêmement précis sur les registrations, c'est-à-dire les couleurs, les jeux de sonorité qu'il fallait combiner et à quel moment ça devait intervenir.
Alors, entre la création de Debout sur le soleil et de La Croix du Sud, que nous venons d'entendre, se sont produits deux événements majeur ou très important du moins pour la vie de Jean-Louis Florence. Il s'agit d'une part de la rencontre avec une femme, Anne Le Forestier, avec laquelle il va se marier, et son élection à l'Académie des Beaux-Arts. La rencontre avec Anne Le Forestier,
c'est une
anecdote qui mérite d'être racontée.
Et elle-même l'a racontée avec une spontanéité et une gentillesse dans ce livre merveilleux. Donc moi, je dois dire que, chère Marie-Louise, qu'à la fin de la lecture de ce livre, j'étais ému aux larmes. J'ai retrouvé beaucoup plus même que ce que je pouvais connaître de l'homme Jean-Louis Florence, et avec tous ces témoignages croisés, habilement croisés, tricotés très finement, petit à petit, c'est une espèce de la mosaïque qui... les petits morceaux de couleurs qui permettent de reconstituer petit à petit un portrait humain, un portrait psychologique tellement vivant et formidablement émouvant. Et Anne Florence se prête à ce jeu avec tellement de gentillesse. Et elle raconte, c'est une drôlerie parce que ça ne ressemble pas du tout au meurtre de notre époque. Elle raconte comment elle l'avait connu, elle l'avait rencontré une fois. Puis ils rentrent de Lyon et il rappelle au téléphone. Oui, il l'invite à dîner à Lyon. Elle décline l'invitation. Elle avait autre chose à faire déjà ce soir-là. Mais il lui donne son numéro de téléphone et lui demande de l'appeler. Alors, il rappelle en retour de Lyon et dit « Voulez-vous me rejoindre à la messe copte dimanche prochain ?» C'est pas généralement ainsi aujourd'hui qu'on tente de séduire ou d'approcher, disons, une jeune fille. Alors, une jeune femme. « Voulez-vous me rejoindre à la messe copte dimanche prochain ?» en 95. Et ça se passait rue Lecourt parce que c'est une église catholique qui était prêtée aux coptes pour leur liturgie. Alors, elle raconte « Je suis arrivée à l'église 5 minutes en retard et j'ai vu Florence au premier rang. Je me suis mise au fond et ai suivi une messe de 2 heures en arabe. » Surprise. Les fidèles chantaient a cappella, les enfants couraient dans l'église. Après la messe, Florence m'a présenté au prêtre copte. En sortant de l'église, froid, pluie et vent. Il m'a emmené déjeuner dans un restaurant qu'il aimait bien, près de Notre-Dame. Il m'a parlé avec enthousiasme de la cathédrale, où il suivait souvent les offices, écoutait les improvisations à l'orgue de Philippe Lefebvre, qu'il appréciait beaucoup. Puis nous avons fait une promenade au bord de la Seine, sous une pluie battante. Alors, c'est lui qui parle maintenant. Si vous êtes sage, extraordinaire, si vous êtes sage, je vous emmènerai à Orly écouter les avions. Je suis resté sans voix, dit Anne, me demandant ce que je devais faire pour être sage. Très vite, il m'a présenté au père Jacques Leclerc, m'a offert plusieurs livres, dont le premier, je m'en souviens parfaitement, était « L'enfant noir » de Camaralay avec une dédicace. Et j'ai pensé que ce livre était également autobiographique pour lui et je ne me suis pas trompé. Et ensuite, nous sommes retournés dans ce restaurant et un soir de février, il m'a déclaré « Voilà, 3 choses m'arrivent en 1995 ». Ça, c'était le scientifique, c'était très précis, toujours, toutes ces notations. « Sans doute la résidence à l'Orchestre National de Lyon. D'autre part, j'ai été pressenti pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts et puis je vous ai rencontré ». C'est merveilleux.
Gilles Cantagrel, vous qui êtes correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, Jean-Louis Florence détonnait totalement.
Écoutez, moi, j'ai eu l'honneur d'être élu, hélas, après son décès. Mais je me rappelle très bien quand Marcel Landowski, qui était à ce moment-là le chancelier ou encore le perpétuel, je crois, de l'Académie, m'a dit... J'ai vu tout heureux, je le rencontre, et il me dit, voilà, on vient d'élire quelqu'un qui est le Benjamin de l'Académie. Il n'a que 49 ans. Bon. Et alors, ce qui était tout à fait étonnant, c'est que on parle toujours de l'académie. Alors, académie, ça fait penser à académique. Je veux dire qu'il y avait eu, peu avant, Xenakis et Messiaen, pour ne parler que des disparus, qui étaient tout sauf académiques, bien sûr. Mais l'arrivée de Florence, ça a pu surprendre beaucoup des membres de l'académie, des Beaux-Arts. Et d'après ce que je peux savoir, en interrogeant les confrères, ça a été une... vraiment une camaraderie artistique, et ils l'ont non seulement admis, mais admiré profondément, comme par exemple Claude Abeille, qui peu après est devenu son ami, a fait son buste, un buste très impressionnant d'ailleurs, parce qu'il a un air un peu sauvage. Vous savez, Jean-Louis était un personnage étrange, un rebelle contre toute forme comment dirais-je, comme contre tout académisme, précisément, contre toute dictature de la mode, du bien-penser.
Ne serait-ce que dans sa façon de s'habiller, déjà.
Oui, tout. Il y a même des photos tout à fait étranges et très amusantes. Et il était donc, je l'ai dit tout à l'heure, tellement original, tellement indépendant, complètement hors norme, quitte à se brouiller avec des gens, mais il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il pensait profondément. Et il a eu des propos définitifs sur la critique musicale en général, qu'il considérait comme incompétente, les modes... Il est apparu dans le paysage musical français en pleine dictature post-sérielle, hors laquelle il n'y avait point de salut. Il a trouvé son chemin et il a forgé son esthétique en rébellion contre cette dictature-là.
En intégrant les modes.
Et puis en refusant le post-sérialisme, qui est peut-être un moyen d'écrire la musique, mais pas le seul. Il y a un moment où, en dehors du post-sérialisme, ça s'est tombé, ça a disparu en 90, quoi, au moment de la chute du mur. Il y a une espèce de dictature esthétique qui a disparu en même temps que le communisme. C'est assez drôle.
Et il fallait une grande, je pense, indépendance des esprit et une personnalité
complètement
pour ne pas tomber sous cette influence.
Il fallait avoir une force de caractère au-delà du commun. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu une œuvre de Jean-Louis, c'était il y a une trentaine d'années, et quelqu'un qu'il connaissait bien écrit à la radio. Il y avait une émission à l'époque qui permettait de faire entendre aux auditeurs des pièces rares, des anciens enregistrements de concerts, que sais-je, à la demande des auditeurs. Et ce monsieur m'avait dit, écoutez, il y a un jeune compositeur absolument formidable que vous devriez connaître, vous devriez passer une œuvre de lui. Il s'appelle Jean-Louis Florence. Je ne connaissais rien de lui, il était encore tout jeune. Et je crois que c'était Ténéré Incantation. C'est une œuvre qu'il a rejetée après, peut-être une œuvre de jeunesse. Mais alors, je me suis informé, j'ai étudié ça, j'ai écouté attentivement, et puis j'ai diffusé, et je l'ai présenté un samedi matin. Et j'ai été bouleversé par cette œuvre. Tout d'un coup, un univers s'ouvrait devant moi, et avant de savoir tout ce que nous savons maintenant sur lui, grâce notamment à ce magnifique livre, eh bien, j'ai senti le désert, enfin des images et la spiritualité intense de cette œuvre. Mais la première fois que j'ai rencontré, si vous permettez ce souvenir, c'était dans les couloirs de la radio. Il était furieux. J'ai vu un rebelle bourru, bougon même, presque sauvage, étrange dans son comportement, qui pestait, qui s'en est pris à moi. Ensuite, je lui ai expliqué que j'étais pour rien parce que il estimait qu'une commande lui était mal payée. Il est vrai qu'elles sont souvent insuffisamment bien payées. C'est vrai, malheureusement, que la musique n'est pas au premier rang des priorités économiques dans notre pays. Et je crois qu'il avait complètement raison, d'ailleurs. Et ensuite, on l'a vu souvent en colère, furibond, mais il était également capable d'un mouvement, d'une générosité, d'une tendresse. Et il y a des photographies de lui où il y a non seulement la profondeur dans le regard, mais une espèce de sourire intense. On a envie de lui parler immédiatement et de l'écouter parler surtout.
Mais au sujet de son entrée à l'Institut, Michel Boursier rapporte quelque chose, il dit « C'est sûrement une des raisons qui l'a poussé à rentrer à l'Institut, donc le fait d'être reconnu quelque part quand même. Mais l'autre, difficilement compréhensible pour un occidental, était qu'il aimait les honneurs à l'africaine. En Afrique, le sage est ce personnage âgé que l'on respecte naturellement, qui détient l'expérience et la connaissance. Plus on est vieux, plus on est respecté, alors qu'en Occident, c'est l'inverse. Les Africains ont le sens du décorum, ils aiment les habits rituels, et c'est notamment dans ce sens, celui du cérémonial et de l'habit vert, que Florence a voulu rentrer à l'Institut. C'est amusant, ça, c'est imprévu, inattendu. Et ce que je voudrais dire sur cette entrée à l'Institut, c'est qu'il a fait un discours extraordinaire, et qu'ensuite, un peu plus tard, dans la lettre de l'Académie des Beaux-Arts, il s'est expliqué sur... son humanisme personnel en dehors de la musique. Voilà ce qu'il écrit. Cette compagnie, l'Institut, est-elle le seul endroit en France où il est encore possible d'échanger durablement sur l'évolution de l'art actuel de façon interdisciplinaire, musicien, plasticien, architecte, en dehors de toute pression idéologique. Et mon plus grand espoir est que nous sachions aider l'Occident à cesser de se considérer comme le nombril du monde, particulièrement la France, largement réputée pour son impérialisme culturel. Nous assistons quotidiennement à la fin de civilisation. C'est parfois sinistre, car ce qui est atrophié tombe et ne se relève pas. L'Occident est à bout de souffle, écrasé par le poids de son ethnocentrisme. Et toujours nous d'abord, toujours plus d'Occident, tandis que les mains tendues des regards blessés sont à nos portes et nous implorent de grandir ensemble. Je pense que c'est aussi le sens de sa démarche quand il pense à écrire L'Enfant Noir, qui vient d'un conte africain de Kamara Lai et qui explique toute la générosité de l'Afrique, écrite par un immigré, par un jeune immigré, Kamara Lai, qui a beaucoup souffert d'être éloigné en banlieue de son continent d'origine. C'est le point de jonction avec la dernière œuvre pour orgue. Naturellement, nous ne parlons que d'œuvres pour orgue et l'orchestre est très important pour lui, mais il faut bien cerner un point.
Il traite un peu l'orgue comme un orchestre. Là, c'était un orchestrateur né, lui qui n'avait pas étudié l'orchestration dans l'enseignement traditionnel. Et il y a au total 18 œuvres achevées, ce qui est quand même peu, même très peu, mais il était d'une telle exigence, comme Ravel, comme Ducas. Ça, il n'y a rien à rejeter. Et il prenait le temps qu'il fallait pour composer. Mais c'est 18 œuvres qui arrivent à un certain état de perfection.
Alors, avant d'entendre quelques mesures de ce prélude de L'Enfant Noir, qui a été créé en 2000, j'aimerais vous remercier, Gilles Cantagrel et Marie-Louise Langlais, d'être venus autour de cette table, dans ce studio à Canal Academy. Vous remercier particulièrement Marie-Louise Langlais pour tout ce travail de préparation et pour votre livre, parce qu'il est vraiment remarquable, et Gilles Cantagrel le relevait tout à l'heure, et on sent quel personnage était Jean-Louis Florence.
Vous savez, mon but, ça a été d'abord, Florence est un être extraordinaire, mais en plus de réunir des témoignages de différentes générations. Il y a ceux qui ont été ses compagnons de route, même ses professeurs. Il y a eu la génération suivante des brillantissimes boursiers Latry. Et puis, j'ai voulu aussi faire une petite page jeune de l'époque, c'est-à-dire pas des innocents, mais qui ne connaissaient pas, qui étaient tout jeunes dans la carrière et qui ont découvert Florence. Et je peux dire qu'aujourd'hui, 6 ans après sa mort, il y a une formidable jeune éclosion de formidables virtuoses qui aiment Florence, qui le joue partout, qui l'amène aux États-Unis. Et ça, c'est très réconfortant parce que ça veut dire qu'il est vivant.
Terminons avec cette idée que je trouve magnifique. Et écoutons L'Enfant Noir, conte symphonique pour grand orgue en 14 tableaux, opus 17, de Jean-Louis Florence, ici dans l'interprétation de...
Alors, de Béatrice Pierrot, qui a donc... l'œuvre était une commande du Concours international d'orgue de Paris. Et elle était assortie d'un prix spécial Jean-Louis Florence, qu'elle a donc remporté pendant ce concours. Et l'œuvre dure à peu près une dizaine de minutes. Et nous allons entendre l'extrême fin, qui est au fond presque un résumé de tout ce qu'il a fait à l'orgue, c'est-à-dire ce changement d'atmosphère extrêmement calme, qui se déploie vers un tutti extrêmement vibrant, avec toujours ce sens de la danse, ce sens de la transe. Pour lui, il fallait jouer du pédalier en dansant dessus, ce qui est impossible. Il montrait à Béatrice comment il fallait danser pour bien jouer son œuvre. Et d'ailleurs, ces mouvements sont sous-titrés de façon très, justement, pour la danse. Et puis, cette œuvre se termine dans un clair-obscur, plutôt obscur, et qui est quand même le prélude de sa propre mort qui interviendra quelques mois après.
Marie-Louise Longlet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, d'un livre paru aux éditions Symétrie en 2009 qui s'intitule Jean-Louis Florence, l'œuvre d'orgue, témoignages croisés. Et dans cet ouvrage, on retrouve donc beaucoup de témoignages de Philippe Herson, de Anne Florence, du frère de Anne Florence, Maxime Le Forestier, de Michel Boursier, un témoignage très, qui a beaucoup de valeur, je trouve.
Absolument,
celui de Michel,
oui.
Boursier, parce qu'il raconte énormément
tout
de choses.
Fait.
On comprend très bien
il
le personnage
très remarquable
de Jean-Louis Florence. Et ce livre est accompagné de deux CD. Et ces deux CD permettent d'écouter l'intégralité de l'œuvre pour orgue de Jean-Louis
tout
Florence.
Tout à fait. Et alors, l'intégralité,
on vous en remercie.
Lui étant présent. Je ne dis pas qu'il était il a été présent au l'enregistrement des quatre œuvres. Donc, c'est presque quelque part son témoignage à lui.
Donc, nous écoutons le prélude de L'Enfant Noir de Jean-Louis Florence. Merci d'avoir écouté cette émission. À bientôt.